2 et 3. C'est parti.
Bonjour, je m'appelle Julie Lane, je suis éthologue de terrain, entre autres, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle de la research action, c'est-à-dire de la recherche sur le terrain, concrète, de façon à changer le sort des animaux, notamment dans les conflits hommes-animaux ou dans les souffrances ou les problèmes que peuvent rencontrer des populations humaines comme animales, de façon effectivement à améliorer la vie en commun des différents types d'espèces, humaines et animales.
Tout à l'heure, lors de ce colloque, hein, vous avez parlé de la condition des animaux de cirque. Vous nous avez montré des images effroyables d'éléphants, façon de les dresser, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Il y a beaucoup de pays qui l'ont interdit, les cirques avec les animaux. Voilà. Où est-ce qu'on en est en France et pourquoi on a encore des animaux dans les cirques? Vous pouvez répondre à cette question.
Je pense que la France a malheureusement des lobbies puissants qui essayent de faire passer ça pour de la culture alors que ce n'en est pas et que c'est assez récent, que les premiers cirques étaient d'ailleurs sans animaux, donc il n'y a aucune raison là-dessus. Et dans le rapport que nous avons fait donc avec l'association Code Animal, derrière les paillettes, le stress, nous expliquons justement, j'ai par exemple pris les numéros des éléphants les plus courants que nous pouvons voir et qui montrent en quoi nous pourrions théoriquement attaquer l'État pour actes de cruauté et de barbarie envers les animaux, puisqu'il y a quand même des articles et des arrêtés qui visent à protéger les animaux, notamment les protections de base étant contre la douleur, contre la maltraitance, contre la faim, contre la soif, et également visant à assurer leurs besoins comportementaux et leur traitement adéquat, ce qui n'est en rien possible dans un cirque et dans beaucoup d'endroits en captivité. Et donc voilà, donc j'ai montré que notamment les numéros sur les éléphants, mais pas que, vont à l'encontre de leur biologie et créent tous les numéros d'éléphants, créent des problèmes, ce sont des études internationales, 80% de problèmes de patch chez les éléphants, arthrite, tendons et autres problèmes comme cela, et qui sont responsables de plus de 50% des euthanasies. Donc il est très rare en captivité de voir des éléphants dans les cirques qui vivent au-delà de 30 ans, alors que dans le milieu naturel, malgré toutes les menaces, ils vivent en moyenne 60 ans.
Et vous parliez aussi des lions, et je crois que là aussi c'est catastrophique, enfin les fauves en général.
Ça fait partie des choses sur lesquelles j'investis, que ce sont tous les liens justement entre l'industrie du divertissement et les industries de chasse au trophée, de chasse en boîte, et donc les industries également de trafic, le trafic d'os de lion en remplacement du trafic d'os de tigre, et qui ont des connexions on ne peut plus évidentes, qui ont été étayées, notamment avec l'industrie du cirque. Il faut savoir qu'un fauve en captivité vit en moyenne jusqu'à 26-30 ans, dans le monde naturel à peu près 16 ans, et il est rare de trouver dans un cirque un lion ou un tigre qui aille au-delà de 10 ans, pour la bonne et simple raison que son comportement fait qu'il va commencer à mettre en danger son dresseur à partir de l'âge de 10 ans, quand il est en pleine activité hormonale et quand effectivement il va commencer à considérer que c'est son territoire et à ne plus se laisser faire. Et donc effectivement, où disparaissent tous ces animaux? Il faut aussi souligner la provenance de tous ces animaux de cirque, puisque effectivement différents rapports, les registres EEP, donc d'élevage européen, ont établi que plus de la moitié des éléphants asiatiques vivant en captivité en Europe ont été prélevés dans la nature. Plus de 83% des éléphants africains ont été prélevés dans la nature. Et quant aux zoos en captivité, ce sont les studbooks de l'EASA 2015, ils révèlent bien que plus de 50% des éléphants asiatiques sont issus de parents sauvages. Ça veut dire que ce sont des parents qui ont été abattus pour leur défense et que ce sont donc des petits. Il faut savoir que tout ça marche ensemble, c'est un business très lucratif. On tue les parents, ça arrange les braconniers, ça arrange effectivement les Asiatiques pour les défenses et les petits pour tous ceux qui revendent, comme dans les dauphins de la baie de Taiji qui effectivement arrangent les Japonais et arrangent les delphinariums.
Donc on est vraiment dans un système opaque, mafieux.
Oui, tout à fait. La CITES, c'est justement une organisation qui est à regarder de très près et à remettre en question, puisque la CITES n'est pas un organisme de conservation, c'est une organisation commerciale où n'importe qui peut être, qui est largement trustée par des groupes mafieux et des groupes liés à l'industrie du crime. Il y a un rapport qui vient de sortir justement sur le business de la conservation et qui a établi justement les liens au Laos, en Thaïlande au Vietnam de différents membres éminents de la CITES et qui n'attendent que ça, c'est d'avoir ces accréditations pour pouvoir effectivement procéder à leur trafic, etc. La CITES a même des gens qui étaient effectivement d'éminents représentants de la CITES, je ne me souviens plus de son nom, c'était un Asiatique, a même été effectivement un mandat de recherche internationale pour plus $1 million de la part de l'État américain.
C'est édifiant ça. Oui. C'est des choses, effectivement, la CITES, on n'imagine pas tout ça. On dit annexe 1 de la CITES, espèce protégée, mais derrière tout ça, voilà, il y a un gros. Encore un système assez opaque. Et vous, en tant qu'association, vous et d'autres associations, est-ce que vous pouvez être justement. Exercer un petit contre-pouvoir ?
Alors, moi, je suis bénévole pour plusieurs associations et je représente en France l'association CATCH, qui veut dire Campaign Against Canned Hunting, c'est campagne contre la chasse en boîte. Et nous agissons justement de façon globale pour essayer de couper les sources de financement. Notamment, c'est beaucoup ce qui est lié à la chasse en boîte et la chasse aux trophées, notamment en Afrique.
Excusez-moi, mais la chasse en boîte, on l'explique en quelques secondes.
Alors, la chasse en boîte, c'est-à-dire que c'est de la chasse aux trophées. Ce sont des lions qui sont élevés en batterie en Afrique. Enfin, pas que en Afrique, dans pas mal d'endroits, mais essentiellement en Afrique australe. C'est-à-dire que vous avez des fermes d'élevage avec des centaines, voire des milliers de lions qui sont élevés en batterie avec les mêmes problèmes que les batteries ici et dont la croissance, ils sont exploités depuis leur premier jour jusqu'à leur dernier jour et la finalité étant uniquement de nourrir le marché asiatique qui est demandeur d'os de lion en remplacement d'os de tigre. Et là, par exemple, le gouvernement sud-africain, nous revenons du Cap en Afrique du Sud où il y a fin août un colloque puisque dans le dos de toutes les associations y compris de l'UICN, le gouvernement sud-africain a doublé le quota de ces lions-là de 800 à 1500 lions qui sont uniquement élevés et tués, abattus pour leurs os, c'est-à-dire qu'ils sont abattus, ils en abattent en ce moment en moyenne une trentaine par jour dans chaque endroit. Vous avez des abattoirs comme ça, des maisons d'abattoirs. Ils les réduisent en poudre directement, ils les font bouillir. Les peaux et la tête vont nourrir les salles de vente, les marchés d'antiquités, y compris chez nous à Drouot, vous en trouvez toutes les semaines. Et tout ce qui est dents, griffes, moustaches, os et viande va nourrir le trafic asiatique, pénis de lion, etc., qu'ils utilisent en fait en remplacement des tigres qui sont devenus trop rares. Et donc ça pèse sur la faune sauvage parce que pour les Asiatiques, il y a plus de valeur dans un animal qui est sauvage au niveau du pseudo-pouvoir, tout ça c'est du perlimpinpin. Et donc du coup ça augmente la prédation et le braconnage, et surtout quand on connaît le nombre d'Asiatiques qui sont présents en Afrique.
Et alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous, nous, citoyens ? Est-ce qu'il y a quand même un espoir pour stopper ce que vous dites là, qui est quand même assez affolant ?
Ben nous informons, c'est nous qui sommes à l'origine de l'interdiction sur plus de 42 compagnies aériennes de l'importation de trophées, de l'importation dans nos pays de trophées de lions. Donc c'est nous qui avons sensibilisé ces compagnies aériennes-là, c'est nous qui avons sensibilisé beaucoup d'industries du tourisme à leurs liens et à ce qu'ils vendaient comme type d'activité qui était en lien avec ces trafics-là et ce genre d'activité-là. Donc nous agissons de tous les côtés pour essayer de couper les financements. Nous sommes dans les grandes conférences internationales. Donc nous avons réussi à obtenir, c'est nous à la base qui avons obtenu l'interdiction dans 4 pays, l'Australie, les États-Unis, la France et l'Italie, de l'importation de trophées en tout ou en partie d'animaux sauvages, enfin de lions. Donc c'est un progrès. Mais le problème que nous avons là, par exemple, effectivement, nous avons réussi. Les chasseurs étrangers, américains, espagnols, occidentaux, ne viennent plus en masse parce qu'ils ne peuvent plus trop ramener leurs trophées. Mais donc ils ont un déficit de ce côté-là. Mais la demande asiatique est tellement forte qu'aujourd'hui, ils élèvent pour réduire en poudre directement les lions et les tigres, puisqu'il y a des élevages de tigres massifs en Afrique et à destination de l'Asie. Donc voilà, je pense qu'il est important de communiquer justement sur, l'inefficacité totale de ces produits-là et sur effectivement le fait, je pense qu'il est important d'impliquer les gens dans notre action de tous les jours. Vous trouvez, votre adolescent vous réclame une dent de requin ou une griffe de tigre à porter en pendentif parce qu'il trouve ça super cool pour frimer devant ses copains. Vous êtes impliqué et vous avez un impact et vous êtes responsable, co-responsable du trafic de ces espèces. Vous allez au cirque, vous allez chanter, vous allez voir des spectacles animaux, vous êtes à l'étranger, vous assistez, vous allez dans une ferme de serpents ou autre, vous contribuez à ça. Vous achetez des chaussures en serpent, des chaussures en n'importe quoi, vous contribuez à ça. Voilà, il est important de... Voilà, je voyais la grande braderie de Lille et le journaliste est France 2 ou France 3. Montrer un tabouret en pied d'éléphant, un pied d'éléphant transformé en tabouret. Et on montre ça banalement, tout comme on montre les choses à côté. Je pense qu'il est important de s'arrêter, d'arrêter de banaliser la marchandisation du vivant et de se dire, mais enfin, c'est hallucinant qu'à la braderie de Lille, on vende comme ça, au vu et au su de tous, une espèce qui est menacée, qui est a priori interdite de vente en France.
Et ben, ce sera notre conclusion. Merci.
Merci beaucoup.